Bonjour et bienvenue sur IDETER, le podcast des territoires qui osent. Je suis Pierre-Alexandre Évrard, passionné par les territoires et engagé pour l'écologie.
L'audace, c'est d'y croire, quoi. En fait, de croire, c'est de s'accrocher à ses rêves.
En fait, je crois que j'étais vraiment déterminé à travailler dans ce domaine-là.
J'aime bien les gens qui essayent de diffuser de la joie, du vivre ensemble, de créer quelque chose ensemble, un peu partout là où ils sont.
Avec IDETER, je vous propose de rencontrer ensemble des femmes et des hommes qui se mobilisent partout en France pour la transition écologique. C'est parti !
Le modèle ancien d'un élu qui explique ce qu'il faut faire, ça ne marche plus. On le voit encore plus fortement avec les nouvelles générations. Et donc, du coup, il faut une attitude différente. Il faut pouvoir, se moderniser. Il y a quelque chose comme ça aussi générationnel dans les modes de faire. Et j'ai un exemple, par exemple, d'un élu que j'avais accompagné, qui était quelqu'un qui était dans le BTP, un monsieur, et qui au départ se disait, mais moi, j'ai pas besoin pour faire une salle des fêtes, par exemple, j'ai pas besoin des habitants. Qu'est-ce que je vais faire avec les habitants ? Je sais mieux qu'eux. Et en fait, quand il a voulu travailler ses premiers sujets avec les habitants, il s'est rendu compte que les habitants avaient des remarques pertinentes sur leurs besoins, qui lui permettaient derrière de prendre de meilleures décisions parce qu'elles étaient éclairées. Et donc forcément, dans la réalisation, il avait un retour beaucoup plus puissant des habitants. Et le fait de les avoir écoutés, d'avoir travaillé avec eux, d'avoir co-construit une action, ça lui permettait une reconnaissance encore plus forte. Ensuite, c'était lui qui nous engueulait à chaque projet en disant « mais moi, je veux plus de participation ». Donnez-moi encore de nouvelles, comment on peut faire, comment on peut développer. Et donc aujourd'hui, on se rend bien compte que on le voit bien dans les urnes, il y a de moins en moins de gens quand même qui votent. Donc ça doit quand même nous alerter nous en tant qu'élus. Donc il y a une légitimité effectivement, et je ne crache pas sur la démocratie représentative, on est élu, donc on est élu du peuple, ça se remet pas en cause. Mais par contre, je pense qu'il y a nécessité pour pouvoir opérer ces transitions dans les meilleures conditions et pouvoir répondre aux besoins, d'aller se renforcer en impliquant les habitants. Et ça permet du coup un meilleur retour et je pense aussi que ça peut permettre du coup un développement plus serein pour les élus de leur projet de ville.
Est-ce qu'aujourd'hui il y a des formations pour les élus ? Quand toi t'as pris ton poste, est-ce qu'on t'a proposé des formations justement pour cette posture, cet engagement ?
Alors, il n'y en a pas suffisamment à mon goût. Ouais. Aujourd'hui, chacun essaye de s'y faire. Alors, moi, autant je promeux les formations, etc. Mais je pense aussi qu'il y a... Il y a aussi les questions de pair à pair, de pouvoir aussi échanger avec les villes autour de ça, et notamment des villes qui s'engagent aussi sur les transitions. Et puis, c'est surtout à l'intérieur des communes de pouvoir aussi partager savoir-faire. Donc, nous, ça fait de nombreuses années. Hein, depuis 2005, on travaille avec des cabinets pour pouvoir, ramasser tout ce qui est produit à l'os, et de pouvoir l'échanger en dynamique, ce qui permet à chaque chef de projet de partager ses réussites, ses échecs, de pouvoir en retirer des expériences, de les capitaliser. Donc on est toujours dans une démarche un peu de recherche-action depuis de nombreuses années qui nous permet du coup de nous former à l'interne. Et puis régulièrement, on va aussi chercher de l'ingénierie extérieure pour pouvoir nous aider. Donc par exemple, on travaille avec le cabinet Atémis sur les questions de coopération au travail parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de mieux appréhender la question de la coopération parce qu'on peut pas opérer des transitions dans une approche systémique si on fonctionne en silo, par exemple, et parfois ça pouvait nous arriver de fonctionner en silo, et donc du coup, comment on opère ça ? Par exemple, ça s'est passé par des changements d'organigramme, d'organisation, etc., donc il a fallu se questionner sur tous ces sujets-là. Donc à la fois de la recherche-action à l'intérieur, à la fois de l'ingénierie extérieure pour pouvoir venir nous muscler, et puis les SEMAG aussi derrière pour pouvoir partager notre expérience, et d'avoir des retours aussi pertinents qui nous permettent de progresser. Sur les structures de formation, il y a des formations qui sont proposées, qui sont plus ou moins de qualité. Voilà, ça se développe un peu, mais c'est encore, effectivement, encore un petit peu léger.
Est-ce que, à l'os, l'élu ne décide plus ?
Ah, mais moi, je pense que plus que jamais, il est dans des décisions qui vont être plus simples à prendre. Dès lors qu'on est dans une co-construction, il y a un échange, c'est pas quelque chose qui est pris un peu dans une boîte noire, et dès lors que ça sort dans la rue, on en a un retour, ce qui est quand même pour moi plus risqué que d'être dans une démarche. Donc je trouve que c'est ça qui est intéressant dans l'application, c'est qu'on a déjà des retours en direct, on a déjà purgé beaucoup de questions, et donc il y a moins de risques de non-adhésion, je vais dire, de la population. Donc je pense que c'est auparavant qu'il y avait beaucoup plus de risques, et je n'ai pas été élu il y a 20 ans ou 30 ans, mais j'imagine que quand des décisions étaient mauvaises, ils devaient en voir des vertes et des pas mûres. Donc du coup, moi je pense que c'est plutôt sur ce prisme-là qu'on peut le prendre.
Oui. Et derrière tout ça, pour toi, les qualités essentielles à mobiliser?
Alors, il y en a beaucoup. Moi, je pense que d'abord, il faut pouvoir avoir une équipe technique qui les tient techniquement, qui tient ses projets techniquement de manière sûre. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'interstices non plus entre ce que va dire un technicien et un élu, par exemple, en réunion publique ou lors d'un atelier. Donc, ça nécessite de bien maîtriser ces sujets d'abord et de bien les partager à l'interne. Ça, c'est pour moi, c'est une recette numéro un. La deuxième, c'est une capacité, une vraie écoute, une écoute active qui n'est pas juste on vous écoute, mais avec un questionnement pour qualifier les besoins qui est absolument essentiel. Une capacité du maire ou de l'élu référent de se mettre dans une posture d'animateur. Voilà, c'est comment aussi on libère la parole et comment en même temps on crée des règles de débat. Par exemple, dans les réunions publiques, voilà, dès le départ on le dit. Voilà, les gens doivent pas prendre la parole pendant 2 heures, c'est pas toujours les mêmes. Il faut créer les conditions aussi pour que les gens peut-être les plus éloignés, qui ont peur de prendre la parole en public, on puisse créer des dispositifs qui leur permettent de s'exprimer. Donc, par exemple, les petits groupes, ben, ça permet d'avoir de l'expression, ou des fois aussi avec des animateurs de quartier, puisque les gens ont l'habitude de fonctionner avec les animateurs de quartier, ils peuvent avoir des dispositifs à côté du sujet dans des espaces plus intimes, plus confinés, plus propices en fait à leur expression. Voilà, de les organiser pour pouvoir permettre tout ça. Donc, ça nécessite effectivement une maîtrise des sujets, de l'ingénierie d'animation, et puis ça nécessite du politique et du technicien d'accepter que des fois les casquettes peuvent se interchanger. D'ailleurs, des fois on a des techniciens qui sont pas loin d'être des élus dans le pilotage de projet, parce que ça le nécessite un moment. Des fois des élus qui sont un peu le technicien, ou des fois l'habitant qui devient l'expert technique d'un sujet parce que il a une expertise particulière sur un sujet sur un projet. Donc voilà, c'est ces changements là qui doivent être acceptés pour pouvoir se sentir le plus à l'aise possible.
Super, vous voilà arrivés à la fin de l'épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage à le partager sur vos réseaux sociaux et à mettre 5 étoiles au podcast sur Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à m'écrire ou à me proposer des sujets en m'interpellant directement sur les réseaux LinkedIn, Twitter ou Instagram. À bientôt.